Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée aux armes légères et de petit calibre, une catégorie dont le commerce ou le trafic ne fait pas souvent les gros titres, alors que ces armes tuent chaque jour, exacerbent les conflits et engendrent une culture de la violence et de l'impunité. Du conflit en Libye ou de la situation au Sahel à la violence au Mexique ou plus largement en Amérique centrale ou du Sud, en passant par les transferts d'armes des Balkans vers le Moyen-Orient ou les tragédies que connaissent régulièrement les États-Unis, regard sur un phénomène qui fait chaque année un nombre incommensurable de victimes, qui se développe dans des situations de conflit ou dans un quotidien de criminalité qui ronge des régions entières, générant des réfugiés sécuritaires. À la veille de la troisième conférence d'examen du programme d'action pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre qui se tient à New York entre les 18 et 29 juin, état des lieux et analyse avec nos invités, Éric Danon, directeur général adjoint pour les affaires politique et de sécurité au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour.
Bonjour.
Benoît Muratschol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, créateur du site azer-asso.org et auteur de « Quelles frontières pour les armes » aux éditions Pédone. Bonjour.
Bonjour.
Comptabiliser le nombre de conflits armés dans le monde peut réserver des surprises. Ainsi, la guerre que se livrent les cartels mexicains de la drogue figure comme le deuxième conflit le plus meurtrier au monde. La guerre en Syrie est celle qui fait le plus de victimes, mais le conflit à bas bruit au Mexique vient juste après, dans le sinistre palmarès, quelques 23 000 morts en 2016, surpassant le nombre de personnes tuées dans les guerres en Irak et en Afghanistan. Tout cela dans un relatif manque d'intérêt des médias et de la communauté internationale, mais pas seulement. Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'opacité. Quel état des lieux peut-on faire au jour d'aujourd'hui de la question des armes légères et de petit calibre? Est-ce que l'on en connaît, ne serait-ce que le nombre, Benoît Muratschol?
Alors, sur les chiffres, c'est toujours extrêmement délicat. Il y a des estimations qui sont faites, à la fois sur la production, où on pense qu'on est à peu près à 900 millions d'armes légères et de petit calibre chaque année, sur le fait de la possession, où on est à peu près sur ces chiffres. Alors, est-ce que c'est plus ou moins 10-20%, encore une fois, très très difficile à dire. Et puis, sur l'impact. Alors, il y a une évaluation également qui est faite de plus de 500 000 personnes par an de tuées par armes légères et de petit calibre. Mais on ne tient pas compte, bien sûr, de l'impact et des effets de la menace de l'utilisation de ces armes légères, de l'impact psychologique pour des pays entiers. Vous parliez tout à l'heure du Mexique. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cartel s'installe dans une ville? Qu'est-ce que ça veut dire pour les familles, pour l'éducation des enfants, l'avenir de ces enfants, etc., qui sont souvent recrutés par les cartels. Donc toute l'Amérique centrale et l'émigration de cette Amérique centrale vers les États-Unis, c'est aussi une des conséquences de cette menace ou de cet usage des armes légères et de petit calibre.
Alors, 900 millions d'armes légères et de petit calibre, j'ai presque l'impression que le chiffre que vous donnez est pratiquement sous-évalué. En préparant cette émission, en ce qui concerne le Nigeria, j'ai relevé que le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement estimait que plus de 350 millions d'armes légères et de petit calibre y circulaient pour une population de 180 millions d'habitants. Bon, il est vrai, somme toute, Éric Danon, que c'est très compliqué d'avoir des chiffres exacts dans la matière. Peut-être aussi une précision, que sont les armes légères et de petit calibre?
Alors, sur les chiffres, bon, il y a environ 900 millions d'armes légères et de petit calibre en circulation dans le monde. Sur certains pays, il faut voir que la comptabilité est difficile parce que ce sont souvent des pays de transit par rapport au trafic. Donc, la manière de compter les flux est toujours difficile. Si on ne compte que les entrants, la somme devient énorme. Mais en fait, il y a aussi des flux sortants pour alimenter du trafic dans le reste du continent africain notamment. Sur les situations, eh bien, elles sont évidemment très différentes et on y reviendra. Il y a des pays en conflit, il y a des pays en guérilla urbaine et en rébellion. Il y a des pays où la criminalité organisée tient le haut du pavé dans certaines grandes métropoles ou le long de certaines frontières. Sur la définition, tous les pays ne sont pas tout à fait d'accord, mais globalement, les armes légères et de petit calibre, disons que ce sont les armes qui sont portables par une seule personne et dont le dispositif est un dispositif avec propulsion de la balle par explosion, de telle sorte que, une fois que la balle est sortie du canon, elle continue sur son élan. C'est important parce que vous avez des lance-roquettes où la roquette continue d'alimenter la propulsion du projectile une fois qu'il est, c'est sorti du tube. Tandis que les armes légères et de petit calibre, c'est une fois que la balle est sortie du canon, elle continue sur sa lancée. Donc, un dispositif portable individuellement, tel que le départ du projectile se fait par une explosion, généralement de la poudre, et une fois que le projectile est sorti du canon, il continue tout seul. Voilà, c'est à peu près ça la définition.
Benoît Lurachel.
Oui, donc ça va du pistolet au manpad, c'est-à-dire les missiles sol-air qui sont portables à deux dômes. Voilà.
Alors, en tout cas, vous évoquiez les munitions, Éric Danon, là aussi, une autre information. Le commerce mondial de fusils de pistolet aurait plus que triplé entre 2003 et 2013, et il s'écoule chaque année 12 milliards de balles. Il y a une question économique autour de tout cela qui est absolument énorme. C'est-à-dire que les entreprises fabricantes d'armes légères et de petit calibre ainsi que de munitions y ont des intérêts extrêmement importants. Éric Danon.
Ah oui, depuis toujours, les entreprises d'armement sont des entreprises qui généralement se portent bien. Le marché mondial est en expansion. Mmh. Partout dans le monde, on voit un rééquipement des armées. Les ventes d'armes ont augmenté en 10 ans de 50% et dans certains endroits du monde de 75% sur les 10 dernières années. Alors ce ne sont pas que des armes légères et de petit calibre, bien entendu, mais les armes légères et de petit calibre, ça suit le reste du mouvement. Donc un marché en expansion et des entreprises qui tentent à développer des produits nouveaux et qui ne sont jamais en retard d'une innovation. Là, nous venons de voir à Paris le salon Eurosatory, où on voit bien les innovations technologiques et le fait que les armes légères et de petit calibre sont de plus en plus des armes qui se montent comme des Legos, c'est-à-dire que sur une base donnée, on rajoute des éléments de très haute technologie, notamment les systèmes de visée, les systèmes de détection du vent, de l'humidité, de l'hygrométrie, etc., et qui transforment, j'allais dire, une arme de base en une arme extrêmement performante. Et ceci, d'autant plus qu'il y a aussi un travail d'innovation sur les munitions, qui sont de plus en plus diversifiées et avec des capacités d'impact de plus en plus fortes.
Benoît Muratchel, qu'est-ce que l'on peut dire du rôle d'Internet aussi dans cette multiplication de la production, des ventes et des transferts d'armes ?
Alors, sur les ventes Internet, c'est difficile parce que ça se passe de savoir, parce que ça se passe sur Internet. Ce qui est sûr, c'est que il est possible, c'est très très difficile à tracer. Ça, c'est la difficulté. N'importe qui peut commander une arme, deux armes, ou alors une arme en pièces détachées sur Internet. Je dirais quand même, par rapport à ce que vient de dire Éric Danon, c'est que, bien sûr, la technologie est très importante et augmente, mais le fléau des armes légères, c'est aussi la Kalachnikov, enfin, ces armes légères de base qui sévissent dans les conflits et dans la criminalité pauvre, si on peut parler de criminalité pauvre, d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie et d'Europe. Donc il y a toujours ce facteur-là. Et bien sûr, l'impact, on l'a vu avec les attentats du Bataclan, l'impact d'une Kalachnikov peut être absolument terrifiant. C'est ça aussi que pose la question des armes légères de petit calibre. C'est à la fois, il y a quelque chose sur la technologie qui se développe et qui est... et cette capacité des hommes à penser la mort de façon de plus en plus élaborée. Et puis, il y a cet outil de base de matériel très, très simple que les enfants peuvent utiliser, parce que souvent, c'est eux, dans les conflits, qui sont utilisés comme enfants soldats et qui continuent d'être vendus à travers le monde.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Éric Danon, quel est le lien entre les zones géographiques où les armes circulent, sévissent, sont entreposées et l'insécurité ?
Alors, il y a une corrélation que l'on constate, mais qui est évidemment niée par beaucoup, et notamment aux États-Unis. Si l'on regarde les zones de très grande insécurité, on s'aperçoit toujours qu'il y a du trafic d'armes dans la zone, un nombre considérable d'armes en circulation, aux mains généralement de milices, de légions diverses, de pseudo-gardiens de l'ordre, bref, de groupuscules divers et variés. Et ce que vous avez dit tout au début au Mexique, on le voit aussi au Brésil et dans beaucoup d'autres zones dans le monde. Mmh. Et ce sont des zones où généralement l'État a abandonné en réalité son contrôle ou a perdu son contrôle de façon volontaire ou non. Et donc il y a un système de prédation sur la zone de la part d'entités qui à la fois contrôlent et taxent les habitants qui sont généralement amenés à vivre dans la terreur de ce type de groupe. Donc il y a une corrélation. Alors maintenant, sur le cas spécifique des États-Unis, il y a négation de cette corrélation. Au nom de la responsabilité de l'homme, ce n'est pas l'arme qui fait le crime, mais bon, c'est la personne humaine qui doit être responsable de ses actes. Eh bien, vous avez un lobby extrêmement puissant qui dénie toute corrélation entre la quantité d'armes en circulation et le niveau de violence qu'on voit, par exemple, aux États-Unis.
Alors, il est vrai que les États-Unis s'appuient sur le deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de porter des armes. Il est évident que les fabricants d'armement... Benoît Muratiol.
Oui, sur l'interprétation du second amendement, elle a été contestée par un juge de la Cour suprême des États-Unis. Et dans le second amendement, il n'est pas dit, en fait, explicitement que chaque individu a le droit de porter une arme. C'est pour une milice bien organisée à l'époque où bien sûr, cet amendement a été écrit. Donc, ce qui correspondrait à peu près aujourd'hui à l'équivalent de la garde nationale. Donc, le fait de s'appuyer sur le second amendement est un scandale absolu parce que ce second amendement, et c'est vrai que beaucoup de médias reprennent comme tel, mais ce second amendement ne dit pas que chaque individu a le droit de porter une arme. C'est les individus, mais qui sont organisés dans une milice.
Alors, en tout cas, Éric Danon abordait la question du lobby des armes aux États-Unis, donc la fameuse NRA, qui est un véritable État dans l'État, hostile, bien sûr, à toute mesure de restriction, dont l'influence s'étend à d'autres continents, c'est ça peut-être qu'il est important de dire, et qui entretient une destructrice culture de la peur à des fins idéologiques aussi bien que lucratives. Quelques mots sur le Mexique. En préparant cette émission, je suis tombée sur des chiffres qui sont absolument édifiant. 70% des armes entre les mains des cartels mexicains sont d'origine américaine. Alors, la législation au Mexique interdit la vente et l'achat d'armes, à la différence des États-Unis, qui compte 5000 foires à l'armement par an et un nombre d'armureries supérieur à celui des McDonald's. Et il y a 6700 de ces points de vente qui sont massés le long de la frontière avec le Mexique. Éric Danon.
C'est une situation qui entraîne en conséquence ce que l'on connaît en matière de criminalité. Donc effectivement, c'est la loi du marché et l'incapacité des gouvernements de s'opposer à cette situation. Et il faut voir la puissance des cartels aujourd'hui. Mmh. Et donc, à bien des égards, ils sont plus forts que les forces de police et de sécurité en face. Et surtout, il y a un phénomène de corruption qui est extrêmement important. C'est-à-dire que la prolifération des armes légères et de petit calibre aux mains de bandes criminelles organisées est corrélée à la corruption sur place et la capacité qu'ils ont de se développer, j'allais dire, malgré l'opposition quasi théorique des forces de l'ordre en face.
Alors, quelques mots pour ajouter sur les États-Unis. Benoît Muratiol, je me tourne vers vous. Il y a un plan actuellement aux États-Unis de transfert de la supervision des exportations d'armes à feu non militaires, du département de la défense à celui du commerce. Un décryptage ?
Question intéressante. Alors, non, je n'étais pas au courant de cela. Je pense que d'un point de vue stratégique, et sous la pression notamment de la NRA, on essaye effectivement de délocaliser sur les questions de contrôle, parce que le Pentagone sait quand même du contrôle, les États-Unis se disent qu'ils contrôlent les choses, donc ça c'est peut-être une des raisons. Je voudrais quand même revenir sur la question de la corrélation entre la possession des armes, la capacité de la possession des armes, et puis la violence qui en résulte, et on se rend compte qu'il y a un impact direct entre la réglementation et le strict de la réglementation, et le nombre de morts. Mais ça ne suffit pas. Et d'un point de vue global, on se rend compte que, comme pour la question de la drogue d'ailleurs, et c'est lié aussi avec l'histoire du Mexique, il faut travailler sur la question, à la fois sur la question de l'offre et la question de la demande. On se rend compte que si on travaille uniquement sur la loi, on obtiendra des choses, mais on en obtiendra peu. Il faut travailler également sur la question de l'éducation. C'est d'ailleurs ce que le YANSA, l'International Network on Small Arms and Light Weapons, va faire, qui est ce réseau international sur les armes légères, qui se réunit lors de la conférence à New York et qui insiste sur le fait qu'on a besoin de travailler sur l'éducation et donc sur le soutien. Quand on parle d'assistance, on a besoin de travailler sur le soutien aux associations qui justement font ce travail de sensibilisation sur l'arme, ce que c'est qu'une arme et le fait de ne pas aller, quand il y a un problème, aller directement vers le trafiquant, mais d'essayer de régler les questions communautaires avec la coutume quand il s'agit pour l'Afrique ou alors la communauté ou la commune pour l'Amérique centrale. Il y a quelque chose qui est absolument indépassable, c'est de considérer à chaque fois que dans des situations de pauvreté, de peur, de menaces, etc., la première des réactions des individus, c'est d'aller chercher une arme, parce qu'ils sont absolument démunis. Tout à l'heure, Eric Danon a parlé du Brésil. On avait rencontré il y a un petit moment des ONG dans les favelas qui faisaient un travail énorme avec les gamins pour les sortir par le biais de la musique, du théâtre, etc. Sortir de l'emprise des trafiquants parce que sinon ils sont ramenés par un principe tout simple de pauvreté. Il faut vivre et pour vivre, il n'y a pas de travail. Donc le meilleur moyen, c'est de recevoir un salaire des cartels présents.
Eric Danon.
Il appartiendrait à des psychiatres de nous décrire ici un certain nombre de phénomènes de fascination pour les armes tels qu'on le voit chez les individus qui ont commis des massacres de masse dans les écoles américaines ou dans les universités américaines. Quand on voit leur passé, on s'aperçoit qu'ils sont très jeunes et que assez jeunes, ils ont été fascinés par les armes et ils ont eu accès à des armes. Et le fait d'avoir accès à une arme, que ce soit en allant l'acheter ou en la prenant dans le râtelier des parents, c'est quand même une facilité, pourrait-on dire, qui fait que la fascination pour l'arme peut se traduire en acte au moment où il y a une cristallisation psychologique chez l'individu qui fait qu'il se dit qu'il va passer à l'acte et peut-être à travers ça exister différemment ou envoyer tel ou tel message, etc. Encore une fois, ça relève du psy. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'avait pas accès à l'arme, nous considérons que la situation serait autrement plus calme. Parce que des gamins qui ont envie de commettre des actes extrêmement violents, il y en a partout dans le monde, mais s'ils ont un fusil mitrailleur dans la pièce d'à côté, évidemment, le passage à l'acte peut se faire de façon différente. Et on le voit, bien entendu, en matière de violence entre les États-Unis et le Canada, par exemple. Là, il y a une vraie différence. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que nous sommes culturellement dans une approche tout à fait différente de celle des États-Unis.
Alors, Benoît Muratschel évoquait l'éducation. C'est vrai que dans ce schéma qui est évoqué, on pense, et vous le disiez, l'Amérique latine, le Brésil, le Mexique, la question aux États-Unis. Après ça, dans les zones de conflit, on n'a pas encore eu le temps d'en parler. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Très forte augmentation du trafic d'armes à destination du Moyen-Orient depuis quelques années, avec des filières comme celle des Balkans, les principaux pays exportateurs, Bulgarie, Croatie, Bosnie, Serbie font leurs affaires avec les conflits au Moyen-Orient. Et une autre question aussi, c'est finalement ce fameux, on en a beaucoup parlé sur RFI avec vous deux, le traité sur le commerce des armes. Quand on entend tout ce qui s'est dit depuis 20 minutes, on se pose la question de l'efficacité ou non de ce traité sur le commerce des armes. Géopolitique pour nos auditeurs en Afrique, place au football. Et pour nos auditeurs hors Afrique, rendez-vous dans quelques minutes après le journal.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, les armes légères et de petit calibre, un fléau mondial. Nous retrouvons nos invités. Éric Danon, directeur général adjoint pour les affaires politiques et de sécurité au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Benoît Muracciol, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, créateur du site azer-asso.org et auteur de Quelles frontières pour les armes aux éditions Pédone. Nous vous recevons à la veille de la troisième conférence d'examen du programme d'action pour prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre qui se tient à New York entre les 18 et 29 juin prochains, conférence d'examen dans le cadre des Nations Unies. Qu'est-ce que l'on peut attendre d'une réunion comme celle-ci? Quelles sont les principales difficultés dans la lutte contre les phénomènes, les obstacles? Éric Danon.
Il faut d'abord rappeler que le programme d'action dont nous assurons la présidence cette année, c'est le seul instrument universel, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez 193 pays qui y ont adhéré. Et c'est un instrument qui a une très grande légitimité parce que les décisions se prennent par consensus. Mais vous imaginez bien que le consensus à 193 fait que le programme d'action en termes de contraintes sur les pays est extrêmement faible. Et donc c'est un système de mobilisation internationale partagée. Quant à la France et ce qu'elle a fait, ce qu'elle va proposer dans le cadre de sa présidence, ça relève de trois niveaux d'action. Le premier, c'est de lutter contre le détournement des armes légères et de petit calibre vers les entités non étatiques. C'est un gros problème que nous avons évoqué et qui relève aussi d'autres instruments internationaux. Ensuite, le deuxième élément, c'est de lutter contre la fabrication ou la transformation illicite des armes à feu. Et là, les aspects de technologie dont nous avons parlé sont importants. Arrivent sur le marché des imprimantes 3D capables de faire en polymère des pièces détachées d'armes. C'est encore, j'allais dire, peu courant dans le monde, mais évidemment, ça va monter en puissance. Et par rapport au trafic, c'est très important parce que les trafics, ce sont des trafics, Benoît Muracciol avait évoqué les Kalachnikovs tout à l'heure, ce sont des trafics de pièces détachées qui permettent de reconstituer des armes complètes. Et donc, c'est un élément tout à fait important. Et enfin, nous travaillons beaucoup sur un certain nombre d'initiatives pour renforcer la coopération internationale. Il faut bien voir que environ la moitié des pays du monde sont incapables de faire appliquer les législations en matière de lutte contre les trafics. Pour des raisons diverses, soit ils n'en ont pas les moyens, soit parce que la corruption endémique fait que, on ferme les yeux sur un certain nombre de choses, etc., etc. Donc ces trois éléments-là sont importants. Par exemple, nous avons une très grosse initiative avec l'Allemagne dans le cadre de la lutte contre les trafics dans les Balkans. Parce que pour les armes qui arrivent en France, les Balkans, c'est évidemment un point très important. Il ne faut pas oublier, par exemple, que l'arme dont s'est servi Koulibaly, c'était une arme qui a été achetée dans les Balkans et qui est revenue avec un ensemble de pièces détachées qui permettaient d'en refaire une arme opérationnelle. Donc il y a tout un système là sur lequel nous travaillons parce que, évidemment, ce qui est important, c'est de voir que ces trafics d'armes ont des points d'aboutissement en France et ont contribué aux attentats terroristes et contribuent aussi à la criminalité organisée. Donc voilà les trois axes, pourrait-on dire, sur lesquels travaille la France dans le cadre du programme des Nations Unies. Alors, est-ce qu'il y a des points d'achoppement? Oui, énorme, parce que déjà, comme on l'a dit, les États-Unis sont dans le programme et refusent absolument toute discussion sur l'interdiction ou la restriction d'accès de ces armes aux populations civiles. Donc, dès qu'on veut travailler sur la question « ces armes ne doivent pas arriver dans la population », immédiatement, il y a blocage américain. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ils refusent pratiquement toute discussion sur la question des munitions, en disant « c'est pas le même sujet ». Benoît Muracciol connaît bien le problème pendant la négociation du TCA sur les États-Unis par rapport à la question des munitions. Ça a été un point extrêmement difficile à lever.
TCA pour traiter sur le commerce des armes.
Traiter sur le commerce des armes. Donc, la nature des mesures à prendre pour lutter contre les trafics aussi. Ce sont des discussions sans fin. Pourquoi ? Parce que les pays en développement ou les pays qui ne fabriquent pas considèrent avec méfiance toute mesure de restriction sur la lutte contre la circulation des armes, parce qu'ils disent en fait ça va nous poser des problèmes quant à notre liberté d'importer, même légalement, les armes légères et de petit calibre chez nous, parce qu'il y aura des restrictions dans la circulation. Il n'empêche que à chaque fois qu'on veut introduire des restrictions sur la circulation du commerce et entre le licite et l'illicite, la barrière n'est pas toujours tout à fait claire, donc il y a des soucis. Enfin, dernier gros souci, c'est la question de la vente aux entités non étatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les guerres sont des guerres hybrides. Le front n'est pas toujours entre deux États. Le front, souvent, il n'existe même pas. Il se passe entre des armées régulières et des entités extrêmement puissantes, parfois considérées par l'ONU comme groupes terroristes, parfois pas, parfois considérées dans leur pays même comme des groupes légaux. Et donc, la question de la fourniture à ces groupes d'armes légères et de petit calibre, ou d'armes en général d'ailleurs, est problématique dans le cadre de ces discussions internationales.
Alors, vous l'avez dit, il y a deux choses, vente aux entités non étatiques ou détournement vers des groupes non étatiques. On peut rappeler l'exemple de 2014, la coalition internationale menée par les États-Unis en Syrie prend la décision d'envoyer de grandes caisses de munitions vers les forces kurdes combattant l'État islamique à Kobané, lesquelles armes se sont retrouvées entre les mains de l'État islamique. Benoît Meritschel.
Oui, alors c'est la difficulté, et c'est ce que pose le traité sur le commerce des armes, c'est-à-dire l'évaluation du risque de l'usage de ces armes. On avait eu un cas d'école, qui était le cas de la Libye, où on avait interpellé à l'époque le gouvernement français en disant « Attention, vous envoyez des armes au groupe anti-Kadhafi, mais est-ce que vous avez évalué le risque d'usage de ces armes ?» Alors la réponse avait été oui, et on se rend compte que ces armes ont été retrouvées au Mali. Donc une petite décision sur des livraisons des armes légères et de petit calibre à deux personnes qui les utilisent avec de graves violations des droits de l'homme, graves violations du droit international et humanitaire, a des répercussions. En dehors du pays, ça a commencé à Libye et maintenant c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Nigeria, etc. Pour la Syrie, on se retrouve de la même manière. Le Pentagone a livré des armes légères et de petit calibre à des groupes armés et la CIA à d'autres groupes armés et ces groupes armés sont affrontés entre eux en Syrie. Donc on est continuellement sur la capacité des États à faire cette évaluation. En France, il y a dans cette commission interministérielle d'études des exportations de matériel de guerre des gens qui ont les compétences et puis quelquefois il y a des avis qui sont émis à cette CIEMJ et qui ne sont pas suivis par les politiques. Parce que, bien sûr, la décision d'exportation est à la fin politique. Et on se retrouve devant des situations absolument paradoxales. Et des situations, bien sûr, où les civils subissent, au bout du compte, cette violence des armes. Donc ça, c'est la première grosse difficulté. Sur la question du processus des Nations Unies et de l'aspect consensuel de ce processus, qui a commencé en 2001, qui a été très très important parce qu'il a permis de réunir les ONG, la création de ce réseau sur les armes légères et de petit calibre et qui font un travail incroyable. Ce sont des gens qui sont souvent, la plupart du temps, bénévoles et qui sont dans plus de 100 pays et qui travaillent avec les gouvernements, etc. On se rend compte que le processus a tendance à tourner en rond. La question des munitions a été posée en 2001, il continue d'être posé aujourd'hui. Or, une arme, c'est du bois et du fer. S'il n'y a pas de munitions, ça n'est que du bois et du fer. Bien sûr, le Rayal va pousser à ce que ces munitions soient absolument prises en compte. Il y a la question du traçage et marquage qui a été lancée par la France et la Suisse en 2001, qui est aussi très très importante, parce que ça permet de retrouver les routes de ces trafics. Les trafics, ça représente, on dit, 20% de la production. Au début, la production, elle est licite. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée illicite? Et les États ont besoin de cette coopération pour pouvoir avoir les moyens techniques de lutter contre cette dissémination des armes légères et de petit calibre. Mais, encore une fois, et c'est là où on retrouve la question toujours de l'offre et la demande, nous avons besoin des ONG, nous avons besoin d'une coopération avec les ONG sur place parce que ce sont elles qui ont la capacité d'interroger les gouvernements, d'interroger les parlements qui poussent les gouvernements à prendre des décisions. Sur les stocks, en 2001, les stocks, notamment dans les pays africains, ça n'existe pas. Enfin, les stocks sont presque à ciel ouvert. Petit à petit, on commence à avancer. On a commencé à avancer grâce à la coopération sur la sécurisation de ces stocks. Mais il n'y a toujours pas d'enregistrement des armes qui sont à l'intérieur. Donc les trafics continuent parce que les salaires ne sont pas payés, etc. Donc ça, c'est aussi des points très très importants parce que ça permet cette mise en œuvre du contrôle des armes légères et de petit calibre. Et puis il y a un élément qui est très très important, c'est la question de... Quand on accorde une exportation d'armes légères et de petit calibre pour des forces de l'ordre, on ne sait pas ou on ne veut pas savoir comment ces forces de l'ordre se comportent. Donc, quand on envoie des armes à un pays, on doit d'abord savoir si la formation de ces forces de l'ordre et de cette armée est en lien avec les principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'usage des armes à feu, par exemple. Or, ces principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et les armes à feu ne sont pas inclus dans le texte de la conférence. Donc c'est ces éléments qui sont des éléments techniques fondamentaux qu'il s'agira de faire avancer pendant la conférence. Et on espère que la présidence française va pouvoir faire avancer dans les négociations, bien sûr, cette question avec des gros pays comme la Chine, la Russie, les États-Unis. Parce que sinon, on va tourner en rond, comme on a tourné en rond pendant les premières années de ce processus.
Tourner en rond. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses autour de cette question des ventes d'armes légères et de petits calibres. Il y a les conflits d'intérêts, les industries d'armement qui sont généralement assez étroitement liées au gouvernement pour leur armée, leur police. Il y a aussi beaucoup d'opacité, vous l'avez souligné, d'opacité sur le volume, la destination, la traçabilité des transactions réalisées dans ce secteur. Beaucoup de déni, je pense notamment aux pays des Balkans, donc qui vendent beaucoup d'armes légères et de petits calibres au Moyen-Orient. On peut souligner que les principaux importateurs, ce sont l'Irak et l'Arabie Saoudite. Les principaux exportateurs, la Bulgarie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie. On peut souligner au passage, Éric Danon, que ce sont pour certains des pays qui sont membres de l'Union européenne. De quels moyens la communauté internationale dispose-t-elle pour endiguer toutes ces dérives? Quels sont finalement les outils? Parce que cette réunion qui va durer 10 jours à New York, face à l'immensité de la tâche et cette notion de consensus que vous évoquiez, on a vraiment l'impression que les problèmes vont être posés, mais sur quoi va-t-on avancer? Éric Danon.
Il y a des instruments internationaux pour lutter contre ça, mais comme le débat le montre bien depuis le début, le sous-jacent, il est politique, culturel et économique. Donc, travailler sur ces éléments-là serait sans doute la meilleure solution. Mais dans la communauté internationale, ces éléments-là, ce sont ceux qui avancent le plus lentement. D'un point de vue juridique, il y a 4 grands instruments. Celui dont nous venons de parler, le programme d'action pour lutter contre les trafics, et qui en fait est venu de la prise de conscience par la société civile des dangers liés à l'accumulation des armes. Et c'est ça qui a lancé la réflexion sur le programme d'action. L'accumulation en elle-même allait produire des effets déstabilisants sur les États et des effets terribles sur les populations. Dans la foulée de ceci, deuxième instrument, ça a été l'instrument de traçage international. Et l'idée, c'était que en matière d'armes légères et de petits calibres, il fallait mettre des références sur tout ce qui sortait des chaînes de production, y compris les munitions. Ça a été extrêmement compliqué parce que pour les différents États qui n'avaient pas du tout l'habitude de se parler entre eux de ces questions de normes, se mettre d'accord sur une nomenclature, tout ça a été très long, très compliqué. Mais cet instrument fonctionne relativement bien et une arme neuve aujourd'hui, une arme légère et de petit calibre, neuve sortie d'une chaîne, d'une industrie contrôlée, vous pouvez, en la regardant et en lisant le numéro, savoir à peu près instantanément d'où elle vient et à quel moment elle a été fabriquée. Ce qui est déjà un certain progrès après pour remonter pour les enquêtes. Ensuite, vous avez une chose dont on n'a pas trop parlé, qui est un protocole qui est annexé à la Convention contre le crime transnational organisé. Cette convention, elle est très importante pour lutter contre la criminalité transnationale et il y a 3 protocoles, un sur les trafics de personnes, un autre sur les migrants et un troisième sur les armes à feu. Et c'est un protocole donc qui examine la question de la lutte contre la fabrication, la vente, le trafic, etc., des armes à feu dans le cadre de la lutte contre le crime organisé. Alors que notre problème aujourd'hui, il est plus vaste que ça. Mais il n'empêche que c'est un protocole très important parce que lui, il est contraignant pour les États. Et la France a eu beaucoup de mal avec ce protocole qui est maintenant sur le bureau de l'Assemblée. pour la ratification parce que la nomenclature douanière française ne correspondait pas à ce qui était demandé par le protocole. Donc les douanes disaient il faut tout refaire si on veut se mettre en phase. Et puis, fort heureusement, la législation européenne a évolué et elle a évolué de telle façon que la France n'a pas à remonter une nouvelle usine à gaz pour arriver à contrôler les armes au moment où elles passent la frontière. Et enfin, on va pouvoir ratifier ce protocole. Enfin, quatrième traité, c'est le traité sur le commerce des armes dont nous avons parlé, qui lui parle de toutes les armes conventionnelles. Ça va des avions jusqu'aux armes légères et de petit calibre. Et une des difficultés qu'on a rencontrées dans le traité sur le commerce des armes, ça a été de savoir à quoi il allait servir. Parce que dès le début, il y avait deux conceptions différentes. La conception plutôt occidentale et soutenue par les ONG qui avaient poussé au TCA, qui était la responsabilisation des pays exportateurs. Et puis les Russes, de l'autre côté, qui disaient « Non, tout ça, c'est un peu du vent. L'important, c'est justement la lutte contre les trafics d'armes, pas seulement les petites, mais aussi les grandes. » Et donc, en fait, il y a eu un problème de conception même du traité. C'est plutôt la conception occidentale qui l'a emporté. Et le TCA est considéré aujourd'hui comme un instrument destiné à mettre les pays exportateurs devant leurs responsabilités au moment de la décision d'exportation. Ce qu'il y a, c'est que, comme tout traité international, le traité, c'est la moitié du problème. L'important, c'est la manière de le faire vivre après. Et donc, c'est maintenant, dans les années qui viennent, parce que tout ça est très long, très difficile, que on va voir si ce traité devient réellement efficace et influe sur le cours des choses ou pas. Le malheur, entre guillemets, c'est que dès que ce traité est sorti, la course aux armements au Moyen-Orient a commencé. Et donc, il y a eu malheureusement une espèce de hiatus entre le moment où tout le monde s'est félicité de l'entrée en vigueur du TCA et la réalité sur le terrain au Moyen-Orient. Et je pense que sur cette question-là, ça mérite vraiment une émission, j'allais dire, à part entière sur la question des exportations d'armement et des politiques d'exportation des uns et des autres.
Nous vous entendrons. Benoît Muratchal, en guise de conclusion.
Alors, je rejoins Éric Danon sur l'analyse qu'il a faite. Je préciserai quand même que ce projet traité est un projet présenté par les ONG et sur la question de la responsabilité, on présentait déjà. Mais je crois que l'ajout russe est aussi intéressant parce que ça donne un angle qui permet de travailler justement sur la question du trafic. Ce traité aujourd'hui ne vit pas, alors, sur les circonstances de relations internationales et Moyen-Orient particulièrement, mais également parce que certaines grandes ONG, comme Oxfam, Amnesty International, se sont retirées du processus, c'est-à-dire qui était très importante dans la mobilisation de l'opinion publique, se sont retirées de ce processus, ce qui fait que aujourd'hui il n'y a plus de pression véritablement sur les États pour leur permettre de continuer d'avancer. Chaque année, il y a quand même cette conférence des États parties du traité, qui est un élément effectivement de vie du traité qui va prendre petit à petit de plus en plus de force. Mais en tout cas, cette pression populaire a grandement diminué. Le Rayal, là encore, continue de mobiliser ses adhérents là-dessus. Mais ça, c'était une vraie difficulté. Et parce que, encore une fois, on s'aperçoit, et notamment sur le Moyen-Orient et sur le Yémen, Action Sécurité Éthique Républicaine a saisi les autorités judiciaires françaises sur les exportations de la France en direction des pays engagés dans la guerre au Yémen, parce qu'il y a des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et là, on se rend compte, encore une fois, qu'aujourd'hui, avec le traité, les États devraient cesser toute exportation en direction de ces pays et que ça n'est pas le cas.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Éric Danon, directeur général adjoint pour les affaires politiques et de sécurité au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Benoît Muratchal, président de l'association Action Sécurité Éthique Républicaine, créateur du site azer-asso.org et auteur de « Quelles frontières pour les armes ?» aux éditions Pédone. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À demain.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur rfi.fr.